Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre podcast Bilan 2013. Pour revenir sur ce qui nous a plu et moins plu cette année dans le cinéma asiatique, j'ai le plaisir d'accueillir Alex, le fondateur de cineasie.fr. Salut Alex.
Bonsoir à tous.
Bah merci beaucoup d'être là pour la seconde fois donc et de parler un peu de cinéma avec toute l'équipe d'Istasia.
Bah merci à vous de m'inviter.
C'est toujours un plaisir. Et donc l'équipe d'Istasia est ce soir composée de Jérémy Kaufmann, qui mange sa pizza. Salut Jérémy.
Salut à tous.
De Nicolas Lemaire, qui mange aussi sa pizza.
Salut.
Et de Yannick, qui est en Belgique, donc je ne sais pas si tu manges une pizza ou pas, Yannick.
Non, mais j'ai mangé une pizza tout à l'heure, cela dit.
Donc c'est soir 2013, c'était l'année de la pizza, donc pour Istasia. Alors je vais commencer... par vous poser une question pour parler un peu de tout ce qui s'est passé. On va évoquer tous les films qui nous ont plu, ceux qui nous ont un peu moins plu, les événements, faire un peu le point sur le cinéma asiatique en France en 2013. Mais pour commencer, je voulais vous demander s'il y a un événement, un film ou juste quelque chose que vous deviez retenir de 2013 concernant le cinéma asiatique. Qu'est-ce que ce serait pour vous ? Jérémy, je vais commencer par toi.
Alors moi, une chose, c'était un moment intense, c'était à Cannes, et j'ai vu enfin les yeux de Victor s'illuminer quand il a rencontré Tony Leung Chiu Wai et qu'il a pris la photo avec lui. Et c'était mon moment de 2013, c'était magique.
Ouais, j'avoue que c'était mon moment de 2013 aussi, et pour le coup je vais devoir en trouver un autre, donc j'y réfléchis. Nicolas, c'était quoi ton moment de 2013 hein?
Ben moi, c'était Deauville Asia 2013 où j'ai pu rencontrer pour la première fois l'équipe istasienne, merveilleuse équipe qui m'ont accueilli en leur sein. Et depuis, c'est une histoire qui commence et qui va continuer longtemps, j'espère.
Et pour toi, Alex, s'il y a un événement à retenir de cette année en termes peut-être plus cinématographiques?
Alors, du coup, je ne vais pas pouvoir dire les deux premiers points. Pour moi, ce serait plus... deux sorties, en fait, Snowpiercer et Grandmaster, qui sont sortis en salle, et deux gros blockbusters comme ça qui sortent en salle en France, c'est pas si souvent que ça.
Et d'autant que ça a été deux grosses, je pense qu'on y reviendra justement dans la manière dont a été un peu perçu le cinéma asiatique en France, mais c'était deux grosses sorties qui sont sorties sur beaucoup de copies, et qui en plus en France ont très bien marché dans leur pays, mais ont été bien distribuées et ont connu un beau succès.
Oui, tout à fait.
Je crois que Snowpiercer, c'est 600 000 entrées, il me semble, en France. Donc c'est quand même un... On me dit oui, mais je ne sais pas en face. Mais donc c'est quand même un beau succès, ouais. Et toi, Yannick, si tu devais retenir un point de 2013, hein, ça serait quoi?
Moi, si je devais retenir un point de 2013, ça aurait été mon passage au BIF, donc au Festival du Film Fantastique de Bruxelles, où j'ai eu la chance de rencontrer Yamaguchi Utai et Sakaguchi Tak, pour une interview absolument passionnante.
Oui, qu'on peut lire d'ailleurs sur le site. Alors vous nous excuserez, ça va, on a deux participants en Skype pour parler de ce qui s'est passé cette année. Donc il peut y avoir quelques interférences de temps en temps, et on espère que ça va passer. Moi, pour le coup, ça va pas être très marrant, hein, mais c'est vrai que ce que je retiendrai de 2013 sera surtout la rencontre avec Wong Kar-wai à Deauville pour la sortie de The Grandmaster. Et autant The Grandmaster est vraiment pas mon film préféré de Wong Kar-wai, il m'a même un petit peu déçu, même si je le trouve légèrement supérieur à ses dernières productions, autant rencontrer un réalisateur qui a vraiment marqué mon adolescence m'a quand même fait quelque chose, surtout qu'il a été super accessible et très sympathique, donc là ça a été une belle rencontre. Voilà, donc la question maintenant, ça va être, est-ce que, justement, comme on parlait de The Grandmaster, est-ce que le film figure dans vos tops 2013, et est-ce que c'est un des films asiatiques de l'année, selon vous? Je vais commencer par Alex, hein, dans la mesure où tu nous l'as cité parmi tes événements. Donc Alex, quel serait ton top 3 cinématographique? Et on va parler un peu de tous les films marquants cette année.
Alors, mon top 3 pour les films sortis au cinéma, alors sans ordre particulier, ça serait Snowpiercer, Grandmaster et Tel Père, Tel Fils, qui sort le 25 décembre.
C'est Ouais, en même temps, c'est très bien, parce que je crois que ces trois films, si en fait Snowpiercer va être dans le top 10, va être dans le top 10 Stadia, va être assez bien placé. Grandmaster, c'est un peu l'oublié cette année, j'ai l'impression, parce qu'on a récupéré tous les tops de la rédaction, et il y a très peu de gens qui citent Grandmaster finalement dans
Pour
leur
moi,
top 10.
il est pas loin, moi. Il doit être 15e ou
Bah,
14e.
quand même, enfin, sur des films asiatiques,
moi, j'en ai vu une soixantaine, quand même, enfin une cinquantaine, donc c'est quand même pas mal, quoi.
Ah, mais ça reste quand même une relative déception quand même cette année. On en attendait, en tout cas la rédaction, on en attendait vraiment beaucoup. On était tout excités à Deauville de le voir.
C'était à Deauville, ouais, l'avant-première.
Ouais, et après on est sorti un peu dubitatif. On a été déçus, quoi.
Ah,
Même si c'est vraiment au-dessus par rapport à My Blueberry Night, qui était vraiment
Ah,
vide. Et
c'est autre chose, quoi,
voilà,
que My Blueberry
il a
Night.
retrouvé quelque chose, il a retrouvé une verve, il a retrouvé voilà, mais ouais, on peut pas s'empêcher d'être un peu déçu quand même. On en attendait peut-être trop, hein, mais
Bah moi, sur le coup de la projection à Deauville, j'étais vraiment très très enthousiaste, en fait. Enfin, vous avez pu en témoigner, hein, quand je suis sorti. J'étais peut-être
ah
presque le seul parmi vous à dire que c'était un super film sur le Kung Fu. Et c'est vrai qu'avec le recul, et puis je l'ai revu une deuxième fois, j'ai trouvé quand même pas mal de défauts. Mais ça reste quand même un de mes films assez marquants de cette année, parce qu'il y a quand même des scènes d'une poésie visuelle assez folle, quoi. Voilà.
Alex, c'est quoi les films suivants dans ton palmarès?
Alors, dans le désordre, parce que maintenant il y a aussi des sorties vidéo, j'ai bien aimé New World.
D'accord. Ouais. Bon.
C'est un film coréen.
Je pense que Yannick
Ah.
va te rejoindre là-dessus.
Ah, il est en numéro 4 chez moi, ouais.
J'ai bien aimé Agent, donc Berlin File en VO. Sinon, ça date un petit peu, mais c'est sorti cette
Vas-y,
année chez nous en direct VOD. C'est Manga qui est sorti sous le titre Dragon.
Un des films que Wildside a sorti en dématérialisé pendant l'été, il me semble, c'est ça?
C'est ça.
Bon, très bien. Ben, on parlera aussi. Je vais noter les sujets qu'on doit aborder, justement, dans un peu de l'avenir des manières de regarder des films asiatiques en France, hein, et cette question du dématérialisé par rapport au DTV. Mais en attendant, je pense que Yannick, il y a quelques titres parmi ceux-là qui figurent dans ton top, n'est-ce pas?
Ah bah effectivement, j'ai beaucoup aimé The Agent, que j'ai trouvé très classique, mais d'une efficacité assez redoutable, et qui se retrouve 8e sur mon top 10.
Et ton top 3, ce serait quoi?
Alors mon top 3, bah, il est très simple. En fait, en numéro 1, j'ai mis The Land of Hope de Sonotion, qui est pour moi un chef-d'œuvre qui m'a bouleversé. J'ai mis A Touch of Sin en deuxième, parce que A Touch of Sin, quoi, hein. De toute façon, si on met pas Touch of Sin dans notre top 3, je crois qu'on est viré, hein, c'est bien ça, Victor.
Bah, y a juste Alex qui a le droit de pas le mettre, quoi. Pour le coup, il a cette chance-là. Comme...
Bah oui, parce que c'est pas pour nous,
Parce que
donc ça va.
tu peux pas me virer, en fait.
Exactement.
Voilà. Non, mais plus sérieusement, j'ai été fasciné par Touch of Sin. C'est vraiment un des gros chocs de l'année. Et en numéro 3, c'est un peu spécial, puisque j'ai mis Generation War, qui est donc une mini-série allemande de Philippe Teitelbach,
Oui, parce que
mais qui...
non seulement ce n'est pas asiatique, mais en plus ce n'est pas un film. Donc
Mais
c'est
en
un peu
plus, ce n'est pas
spécial.
un film, je l'assume complètement, parce que ça traite quand même de la guerre entre l'Allemagne et la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bon, bah, la Russie a toujours été un sujet qu'on a intégré à Eastasia. Et malgré le fait que ce ne soit pas un film à proprement parler, c'est une série en 3 épisodes qui dresse une fresque absolument magnifique, loin de tout manichéisme, et qui réussit à un équilibre vraiment quasi parfait, avec un sujet franchement casse-gueule, en évitant le pathos, en évitant de verser dans le trop glauque. Et c'est vraiment une œuvre que j'avais envie de mettre en avant.
Oui. T'avais vu le film de Sam Peckinpah, Croix de fer, hein, parce que ta critique me faisait penser un peu aux mêmes thématiques qu'il pouvait y avoir dans cette mini-série Génération Noire.
Ah non, je l'ai pas vu, non.
Ah, il faut.
Ça pourrait te
Il
plaire en
faut.
plus. Ça pourrait te plaire, Yannick, en plus. C'est bien pour toi, ça.
D'accord, bah je prends note.
Alex, d'ailleurs, tu n'as volontairement pas cité A Touch of Sin, j'y reviens, parce qu'on va en reparler, parce que tu n'as pas aimé le film ou pour une autre raison où il figure plus loin dans ton top 1.
Non, non, c'est juste qui figure dans mon top. Il est dans mon top 10, mais comme il fallait citer que quelques films, je ne l'ai pas cité. Voilà. Mais non, non, il fait partie de mon top 10.
Bon, ça va alors, ça passe.
Ok. Jérémy, alors ton top 3 serait quoi?
Bah alors, évidemment, bah, le premier c'est A Touch of Sin de Jason Keough qui est vraiment le gros chef-d'œuvre de l'année. On en a longuement parlé, on va pas y revenir. Le deuxième, ça serait Norte, qui a été une grosse, grosse, grosse claque à Cannes de Lav Diaz. Et un film philippin de 4 heures qui m'a subjugué. J'en avais déjà parlé dans un autre podcast. Et le troisième, c'était Shokuzai de Kurosawa, la transposition de sa série télé qui nous avait fait forte impression à Deauville et qui est un bel état des lieux du Japon d'aujourd'hui, en mode serial, vraiment un très très beau film. Donc Nicolas, ton top 3.
Alors moi mon premier c'est Hope, donc un film coréen qui a été présenté au festival de films coréens à Paris.
Enfin un inédit.
Voilà, enfin. Et donc moi j'espère déjà qu'il aura un jour une sortie en France, même en DVD, parce qu'il le mérite. Donc c'était une grosse grosse claque, parce que c'est un film qui traite donc d'un sujet très casse-gueule, qui est la pédophilie. Donc c'est l'histoire d'une gamine d'une famille qui se fait violer par un serial killer, quoi. Et donc beaucoup beaucoup de réalisateurs se seraient vraiment cassé les dents en jouant sur le côté très mélodramatique ou très pathos de cette histoire. Et donc Hope, lui, il arrive à toujours garder cet équilibre entre quelque chose de très sombre et quelque chose de très lumineux, parce que le film s'intéresse surtout à la reconstruction de cette famille qui a été complètement bouleversée par cet événement. Et donc malgré le sujet sombre, il y a beaucoup d'humour dans le film. Et c'est surtout aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, quoi. On en ressort vraiment bouleversé.
Ça fait pleurer. Ça fait pleurer mémé, quoi.
Non, non, mais c'est vraiment. Non, parce qu'il n'assiste pas. Il n'y a pas de pathos, quoi. Mais c'est une émotion qui arrive. Ça, c'est sincère. C'est une émotion qui arrive naturellement, quoi. Il ne force pas dessus. Ça vient tout seul. Et donc, c'est vraiment un très, très beau film. Surtout que la gamine qui joue dans le film est juste hallucinante, quoi, de sincérité, enfin voilà, quoi. Ça prouve encore une nouvelle fois que dans le cinéma coréen ou même le cinéma japonais, ils sont très forts pour diriger les enfants.
Là, on l'a vu, donc, il a fait l'ouverture du festival du film coréen à Paris. A priori, il y a des chances pour qu'on le retrouve dans d'autres festivals, enfin peut-être à Deauville cette année, peut-être au Black Movie. Ouais, ça a l'air d'être un film.
J'espère surtout
qui
qu'il
a...
aura une sortie. Il y aura des distributeurs qui seront assez couillus pour le sortir en France, quoi. Parce que c'est vraiment, enfin,
un film coréen sur la pédophilie.
Ouais, mais dans le genre, ça éclate carrément tous les films qui sont sortis presque juste sur ce sujet jusque-là. Donc il faudrait que ça sorte en France. Voilà. Et donc mon deuxième, mon top 2, donc c'était Why Don't You Play in Hell de Son Ocean.
Il y a un peu plus de chances de sortir, on va dire.
Bah, j'espère, parce que c'est tous les films de Son Ocean sont sortis, enfin tous les derniers sont sortis au cinéma. Donc on espère que celui-là, qui est quelque chose qui. Enfin, un film qui aura une forme de déclaration d'amour au cinéma, et surtout qui rappelle un peu ses premiers films, enfin ses premiers films un peu punk, quoi, dans son délire et dans son
ce côté. C'est plus maîtrisé.
C'est plus maîtrisé, c'est-à-dire que bon, forcément il y a une évolution dans son cinéma depuis ses premiers films, mais c'est justement, il y a un côté, on ressent un peu les racines de son cinéma qui remontent à la surface, parce que c'est vrai que ses deux derniers films sur Fukushima ne sont pas forcément des films qui étaient en rapport avec le reste de sa filmographie, donc voilà.
A priori, c'est Wildside qui a les droits du film. Donc reste à savoir si Wildside. Alors pour une sortie salle, j'y crois moyen.
Ouais, restons sérieux là sur ce coup-là.
On verra, mais c'est quand même un gros risque financier après les échecs des derniers Son Ocean qui n'ont pas fait grand-chose. J'espère vraiment une belle sortie DVD. ou vidéo. Et en tout cas, je croise les doigts pour qu'ils ne refassent pas le coup de Cold Fish et qu'ils attendent 3 ans pour le sortir en VOD.
Ouais, de toute façon, on en avait beaucoup parlé déjà quand on avait fait le bilan de l'étrange festival.
Oui.
Et bon, mon troisième, c'est Tel père, tel fils. Donc, je crois que c'est le film qui a plu à peu près à tout le monde. Qui est donc, quand on aime Koreeda, on ne peut que aimer ce film, quoi, qui prouve encore une fois que les Japonais aussi sont très forts pour diriger les enfants, parce que les acteurs enfants sont parfaits, quoi. Et je voulais aussi parler de Southbound, qui était aussi au festival coréen, qui est mon top 4, mais parce que Tel père, tel fils, on va y revenir de toute façon. Et ouais, donc c'est un film aussi qui est inédit et qui mériterait aussi une sortie en France, parce que dans le genre comédie populaire, intelligente, qui part d'un postulat assez caricatural, mais qui arrive à faire quand même passer pas mal d'idées avec légèreté et humour, c'est vraiment une référence, quoi, je trouve, de ces dernières années. Et beaucoup de cinéastes français devraient en prendre de la graine sur tout ce qui est comédie, rythme des gags. C'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a pas mal de choses à prendre, quoi. Donc voilà, très très bon film.
T'aimes pas Danny Boone et Kev Adams? Non, mais c'est quoi ce
donc
bordel?
C'est pas mon truc.
Ok. Bah donc ça fait oui. Bah en fait finalement je pense que je vais rejoindre un peu tout le monde, enfin tous ceux qui sont obligés chez Istasia pour mettre en numéro 1 A Touch of Sin. En deux, ça c'est Jérémy qui m'oblige, je mets Norté la fin de l'histoire de l'Avdiaz. Voilà, très, très sincèrement, ouais, c'était un des chocs de l'année. Et mon troisième, c'est Chapiteau chaud de Sergueï Loban, qui est un film assez fou qui avait été présenté au Black Movie l'année dernière, qui malheureusement n'a pas eu de présentation ou de sortie française. Et c'est un truc entre, j'avais dit que c'était entre. C'est un film choral qui dure 3h40 et c'est entre David Lynch, Kenneth Anger, Kusturica, Nugmanov. Enfin, il y a plein de références qui foisonnent dans ce film et c'est assez fascinant. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a. Alors là, je vais présenter un autre sujet. Qu'on a chacun, finalement, bon, peut-être un ou deux inédits qui nous ont beaucoup plu. Mais on se recoupe assez sur la qualité globale des films qui sont sortis en salle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a tellement peu de films asiatiques qui sortent en salle que finalement il n'y a pas de mauvais films qui arrivent? Et s'il y a des mauvais films, bah, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé cette année en 2013? Peut-être commencer par Alexandre.
Alors ouais, effectivement, il y a très peu de films asiatiques qui sortent en salle. Pour des raisons commerciales évidentes. On préférera toujours sortir un film pourri avec Schwarzenegger que un bon film asiatique.
Ouais.
Ça, c'est un constat qui, pour l'instant, n'a pas changé. Après, il y a quand même eu pas mal de... Enfin, j'ai pas fait le compte précis, mais il y a quand même eu beaucoup de films qui sont sortis au cinéma... Snowpiercer, Grandmaster, Touch of Sin, Tel père, tel fils, Ilo Ilo.
Là, il y a Albator aussi qui est une grosse sortie. Et là, on parle de films qui sortent sur c'est pas des sorties à 10 copies, quoi. Enfin, c'est vraiment des grosses sorties.
Le Hong Sang-soo aussi, qui lui a vraiment la chance de voir sortir tous ses films.
Moins de copies qu'Albator.
Oui, moins de copies, mais il y a tous ses films qui sont sortis depuis quelques années. Pourtant, il en fait deux par an, quoi. Donc.
Mais de toute façon, en fait, en dehors de l'Asie, la France est quand même un pays à part par rapport à l'Angleterre. On a vraiment beaucoup de films qui sortent, on se plaint toujours, mais on a beaucoup de films qui sortent en vidéo et aussi au cinéma, quoi.
Je pense que de toute façon, il y a 4 moyens de voir des films asiatiques actuellement, sont les sorties salles, dont on a déjà commencé à parler, dont on va parler encore un peu dans quelques minutes. Les DVD et le marché vidéo, internet et les festivals. D'après vous, déjà, quel est le meilleur moyen de voir des films asiatiques pour l'amateur de cinéma asiatique en France en 2013? Où est-ce qu'on pouvait voir les meilleurs films asiatiques, comme on a vu que les films en salle étaient plutôt pas mal? Est-ce qu'il y avait des films plus intéressants ailleurs, et quels étaient les meilleurs moyens de voir les films? Peut-être Alex, si tu veux reprendre sur cette thématique.
Ouais, tout à fait. Alors, De mon côté, je pense que c'est en vidéo et dans les festivals qu'on peut voir les meilleurs films. Alors en vidéo, tout simplement parce que c'est par ce canal de distribution. Alors quand je dis vidéo, j'inclus le direct VOD, la VOD, ce genre de choses. C'est par ce canal que sortent la majeure partie des films asiatiques. Et du coup, dans la masse, on arrive à trouver quand même des bons films. Que ce soit The Agent, New World, etc., etc. Et durant les festivals, parce que ça nous permet de voir Confession of Murder, par exemple, qui sort en 2014 en France. J'y reviendrai un petit peu plus tard.
On était
Et
loin ou en salle?
donc ça nous
En
permet de
salle, ouais.
découvrir
On était.
justement des films récents, qui certains sont sortis il y a tout juste quelques mois, voire quelques semaines en Asie. Et donc c'est vrai que c'est assez plaisant justement de voir ces films récents.
Yannick, toi qui a peu accès finalement dans ta province reculée de Belgique, enfin à Liège, aux films, au cinéma, et qui voit défiler des dizaines de DVD tous les mois, est-ce que tu partages cette analyse?
Ah, totalement. Je tiens d'ailleurs, juste avant de développer, je tiens quand même à revenir, vous parler du paysage cinématographique en France, mais un truc tout bête, Albator ne sort pas du tout en Belgique. Pas une sortie de prévue, rien, le film n'est pas acheté. Donc, chez nous, c'est encore un peu plus compliqué, même si on a quand même certains films comme Lunchbox ou A Touch of Sin qui arrivent. C'est quand même déjà un peu plus compliqué. Donc, effectivement, je me rabats assez facilement sur les sorties DVD qui sont nombreuses et sur les festivals qui sont un peu plus intéressants en Belgique et qui permettent de découvrir un paquet de bons films. Et finalement, mon top 10 se retrouve avec une grosse partie d'inédits DVD, voire de films vus en festival, parce que je rejoins les propos tenus précédemment. Il y a assez peu de films qui sortent au cinéma parce que c'est des prises de risque et on préfère effectivement sortir un film vers lequel les gens auront plus facilement envie de se diriger, et le cinéma asiatique rentre pas forcément dans ce cadre. Mais les sorties vidéo permettent, alors j'espère qu'on va pas trop aller vers des sorties VOD, mais plutôt vers des belles éditions de beaux DVD. Mais enfin, ça c'est une autre polémique. Mais les sorties DVD permettent de découvrir pas mal de choses. Moi, je citerai Nameless Gangster aussi, qui est un polar coréen qui m'a vraiment passionné, original, typique, une fresque de gangster absolument fabuleuse que je conseille ardemment. La sortie DVD est vraiment la direction que doit prendre le spectateur qui n'habiterait pas Paris ou qui ne pourrait pas faire le tour des festivals assez régulièrement pour pouvoir découvrir le cinéma asiatique.
Et est-ce qu'il n'y a pas justement au niveau des distributeurs salles et des éditeurs DVD un espèce de partage du marché qui va faire que maintenant un film de genre, voilà, comme Nameless Gangster, Berlin Files, The Agent, va plutôt sortir en DTV directement, alors qu'un film qui serait repéré en festival et qui serait plus du cinéma d'auteur, comme bon, on l'a vu sur The Lunchbox, hein, encore que ça reste une comédie romantique ou Koreeda, Jiazhenke, c'est-à-dire des grands noms, ou même des plus petits films comme Ilo Ilo, prendrait la direction des salles. Et c'est-à-dire qu'on aurait d'un côté le cinéma commercial pour le DVD, de l'autre côté le cinéma d'auteur pour les salles, et en fait au milieu, il y a quand même une grande diversité
Bah
du cinéma en Asie, bah, il n'y a plus personne qui s'occupe de ces films-là.
ouais, c'est un peu le problème de. Voilà, il y a un fossé qui se crée entre la case prestigieuse et comme tu dis, la case prestigieuse qui...
Aung San Suu qui va toujours sortir.
Oui, mais c'est voilà, c'est du prestige, quoi, parce que Aung San Suu.
Oui, on parle cinéma asiatique parce qu'on est asiatique, mais si on était dans ça de manière générale, il y a énormément de films bien qui ne sortent qu'en DVD parce que justement, ils sont pas le grand nom sur la jaquette ou ils sont pas.
Ouais, mais alors là, pour rester en cinéma asiatique, c'est même pas une question de grand nom, parce que par exemple, Nameless Gangster, il y a Choi Min-sik, c'est plus une question de catégorisation par genre,
Il y a
c'est
la
un
série
polar.
B, voilà, oui, c'est ça.
Ouais, mais si
Ça
tu parles
s'appelle
de
un salon.
Choi Min-sik à des gens lambda dans la rue, ils sauront pas qui c'est, tandis que tu leur parles de Danny Boone, là, ils saisiront.
Oui, mais
Non,
bon,
mais
bah.
faut relativiser pour les distributeurs dans les salles cinéma. Je veux dire, diffuser un film en salle de cinéma, ça coûte effroyablement cher, bien plus cher qu'une distribution vidéo, et c'est des risques que
Oui,
très peu d'éditeurs sont prêts à faire, très peu
distributeur.
d'éditeurs ont
Ouais.
même les moyens de le faire.
Mais après, comme dit Victor, il y a une sorte de classe moyenne, si on peut les appeler comme ça, qui se perd un peu dans le brouillard, quoi. Et finalement, et ces films-là, on n'en voit pas la couleur, ni en DVD, ni en salle.
Au festival, il y a les festivals qui font encore ce
Voilà.
travail-là,
Ouais, mais les
qui ont
festivals, c'est pas assez
défriché.
démocratisé encore. On n'est pas.
Mais c'est ça.
Voilà.
Est-ce que les distributeurs font vraiment les efforts nécessaires pour essayer de dénicher vraiment les
Après, c'est une
films?
logique économique aussi,
Voilà, il y
quoi.
a une logique. C'est vrai qu'il y a une logique économique derrière, mais enfin, on se demande quand on voit tous les très bons films qu'on voit en festival, on peut penser que certains films pourraient marcher en France de par leur sujet, de par leur thème, et on se demande. Comment certains films ne sortent jamais alors qu'il suffirait que certains distributeurs fassent l'effort de voir les films dans les festivals pour.
Après, il y a le spectateur aussi. Est-ce que le spectateur est prêt à voir ce genre de divertissement-là?
Ouais, mais il y a plein de films qui sortiraient en France qui auraient un petit succès, qui auraient
Je
un
ne sais pas,
succès, je
la preuve,
pense.
voilà pourquoi Spike Lee fait son remake d'Old Boy. C'est aussi
Je suis
pour
sûr que The Agent qui
qu'il
sortirait en salle,
y a.
pourrait faire un bon 300 000
Il y a aussi
en
un problème
France.
d'exploitant, c'est-à-dire que c'est pas sûr que pour un film de genre asiatique, il y ait une possibilité d'avoir un nombre de copies aussi important que pour un film américain ou pour un film français.
Je prends l'exemple de The Thieves, par exemple, The Thieves qu'on a vu à Deauville, qui était un espèce de Ocean Eleven coréen, qui ressemblait beaucoup de gros noms coréens, même asiatiques, puisqu'il y avait Simon Yam. Et c'est un film qui aurait enfin, si un distributeur avait fait les efforts pour le distribuer, il l'avait bien vendu, je pense que c'est un film qui aurait marché, par exemple, mais
Je sais pas.
on voit toujours pas la couleur, quoi.
Je
Alors,
sais
c'est
pas. Parce que
Mais le
Metropolitan.
problème, c'est que les éditeurs non seulement ne font pas toujours les efforts, mais en plus, des fois, on a l'impression qu'ils connaissent pas leurs films, que ce soit pour des sorties salles ou des sorties DVD. Je vois un film comme Nightfall qui essaye d'être vendu avec sa jaquette comme un film de tatane bourrin, alors que c'est un polar malsain où il n'y a quasiment aucune action. Il y a un truc qui ne va pas dans la manière de. Des fois, on a l'impression qu'ils regardent leurs films avant même de vouloir les vendre, quoi.
Possible.
Bah, il y a deux choses. Déjà, sur The Thief, je voulais juste ajouter que c'était Metropolitan qui avait acquis les droits
Ouais, mais
depuis
on voit
quelques
toujours pas
temps,
la
et que
couleur,
normalement,
quoi.
la sortie est prévue en DTV pour mai 2014. On verra si ça se fait ou pas.
Parce qu'avec Metropolitan, tous les trucs qui sont prévus et qui se font pas.
Bah, généralement, alors, ils les sortent. Après, il faut aussi constater qu'au niveau du DTV asiatique, il y a une chute qui a commencé au milieu des années 2000 des ventes du cinéma asiatique. Et que effectivement, les éditeurs, il n'y en a plus beaucoup des éditeurs qui continuent à sortir de l'asiatique,
Ils sont frileux, quoi.
Sont frileux, mais ils le font aussi à perte. Que les distributeurs sont pas très chauds pour sortir un film asiatique vendu comme un film asiatique, donc il faut contourner un petit peu ça. En masquant le fait que ça soit un film asiatique, en le vendant comme un film d'action alors que ce n'en est pas forcément. Il faut que ça rentre dans des cases pour que les distributeurs fassent une mise en place qui soit assez importante pour que le film soit vendu après. Mais ça c'est aussi dû à une baisse du marché. Enfin le Les, euh, la vente des DVD baisse, le Blu-ray a jamais décollé, la VOD décolle pas forcément en France, donc voilà, enfin tous ces même pour moi il y a effectivement eu des très bonnes sorties des TV en France, notamment sur la fin d'année. Je les ai pas tous vus d'ailleurs pour le coup, mais sur The Agent, Berlin File, Nameless Gangster, etc. C'est pas dit qu'on en est au 2014 parce que ces films ont pas du tout, enfin semblent pas du tout marcher en fait. Dans une vidéo,
En même
donc
temps, The Agent, enfin, je regarde un peu la télé, mais la pub, elle a dû, pour le DVD, elle a dû apparaître genre il y a une semaine, enfin une semaine avant la sortie, quoi. Donc
mais
il y a
y a un problème de
aucun
promotion.
voilà, c'est ça
Il y
le
a un problème
problème.
de promotion, mais il y
Ils
a
avaient
aussi.
dépensé tout leur fric pour Wing Fighters.
Il y a aussi.
Fighter a bien marché, donc c'est un contre-exemple. Il y a Tai Chi et Wing Fighters qui ont bien marché cette année, donc chez
Mais
Wallsale.
après, je pense que c'est aussi le public qui suit pas non plus derrière aussi. Il faut
Ouais, il préfère aller voir Danny Boone qu'un film asiatique. Oui,
Non, oui, non, mais c'est un peu schématisé le truc, mais...
Oui, c'est...
Alors, c'est pas juste Danny Boone, hein, mais si on reprend l'exemple que tu citais tout à l'heure du remake d'Oldboy pour le public américain,
bah oui, c'est bien,
c'est exactement la même chose pour le public français.
C'est la même logique.
De toute façon, un film... Enfin, le même film, la même histoire, mais avec des acteurs français, bien marchera sûr. Toujours mieux,
bien sûr.
Même si c'est moins bien tourné, que sa version asiatique.
Et là, The Sibs...
Avec des acteurs américains, le public lambda, oui, voilà. D'aller voir des films américains,
bien sûr.
Et remake, d'aller voir des films asiatiques.
Bah, c'est pour ça que là, The Sibs, on parlait de The Sibs, mais quand s'il sort en 2014, les gens, la première chose qu'ils vont dire, que c'est un rip-off de Ocean Eleven, et que forcément ils vont plus se tourner vers Soderbergh, Clooney et Matt Damon plutôt que du côté de Simon Yam et
bah c'est pas dit parce qu'il y a le côté nouveauté, mais après c'est clair que Metropolitan va le vendre comme ça, ils vont le vendre comme un Ocean Eleven asiatique, voilà. Ça n'est pas forcément dans
la phrase derrière la jaquette avec voilà quoi, mais
c'est dommage que...
c'est assez différent quand même, ça c'est juste le pitch de base, mais finalement le film c'est beaucoup plus tourné vers l'action, justement je trouve que il y a beaucoup plus d'éléments qui pourraient plaire au grand public dans The Sibs que dans Ocean Eleven par exemple.
Après pour moi c'est plus une manière d'amener les films vers le public, c'est-à-dire que effectivement à mon sens le DTV il y a plus d'éditeurs qui va prendre le risque de sortir des films en DTV. Les sorties salles, bah on le voit, ça va être des films de prestige. Il faut qu'il y ait un réalisateur en fait, et c'est même pas les acteurs derrière.
Non, c'est un auteur.
Même Hong Sang-soo, parce qu'on parlait tout à l'heure de Choi Min-sik. Choi Min-sik est même plus connu que Hong Sang-soo pour le public français.
Oui.
Enfin, on peut pas. Hong Sang-soo, c'est
mais une élite. Choi Min-sik, c'est une gueule en fait. On connaît pas forcément. Le public occidental connaît pas forcément son nom, mais dès qu'ils vont voir son visage, ils vont dire ah tiens, lui,
c'est le mec qui a joué dans Oldboy.
Voilà, c'est ce mec-là, et ils vont.
Alors que Hong Sang-soo, il y a 1000 personnes qui connaissent en France, mais ils vont tous aller voir ces films.
Alors Hong Sang-soo, les gens ne connaissent pas forcément à quoi il ressemble, mais ils connaissent Hong Sang-soo. Donc c'est assez...
Et par contre, c'est vrai qu'il y a toujours, il me semble, du téléchargement illégal qui continue à exister sur des plateformes. On trouve n'importe quel film asiatique, fansubé, ou en tout cas avec des sous-titres anglais. Dès qu'il y a un acteur coréen qui joue dans un drama ou un acteur japonais un peu connu, il y a des fansubs qui font quand même le travail de sous-titrage. Donc c'est-à-dire que le public est quand même là.
Il y a aussi de plus en plus de plateformes comme Wakaning, par exemple, qui proposent des contenus gratuits pendant une semaine, je ne sais pas quoi, et qui après... c'est surtout l'animation, les mangas, tout ça. Mais justement, ce ne serait pas une bonne chose de voir ce système se démocratiser aussi pour les films asiatiques qui ne sortiraient pas en France ou juste en VOD.
La VOD, c'est un système qui est intéressant dans les faits, mais qui a vraiment beaucoup beaucoup de mal à décoller encore, quoi. Les gens.
Je pense que le problème principal de la VOD en France, c'est surtout son prix. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux voir un film récent sur ta télé, c'est 4,99€. Et quand tu penses que un DVD après ton cycle de vie en promo, il est à 9,99€, c'est un petit peu compliqué pour les gens de mettre 4,99€ pour un film.
Ouais, c'est.
Mais est-ce que l'avenir, c'est pas des abonnements? Enfin, on sait que Netflix va arriver en France. Il y a Canal Sat, il me semble, Canal Play, pardon, je sais
Canal
plus
Play.
Quand. Canal Play qui propose un catalogue de films, t'as un abonnement à 9,99€, il me semble, et t'as accès à tout leur catalogue, y compris les nouveautés, etc. Donc,
ça, c'est carrément le futur, quoi. Voilà.
Voilà, mais après, est-ce que ça va amener plus de films,
si,
plus
parce
de
que,
visibilité
en fait,
sur les films
non,
asiatiques?
Non, parce que Netflix, Netflix ont un catalogue quasiment illimité, quoi. C'est un peu utopique,
mais
ils ont quand même un
catalogue. C'est américain, Netflix.
Oui, mais
ça veut pas dire qu'ils vont mettre en avant les films asiatiques.
Voilà, les États-Unis aussi ne mettent pas forcément en avant les films asiatiques.
Mais après, si ce modèle économique arrive à se démocratiser en France, après, ça s'ouvre. Voilà, il y a peut-être un portail qui peut être spécialisé dans le cinéma asiatique et proposer un abonnement.
Ouais, après, c'est à Wellside et Metropolitan et les autres de faire leur abonnement et de mettre en avant tout leur catalogue.
Parce que le catalogue, ils l'ont. Le catalogue, ils l'ont, il n'y a pas de problème.
Et tous les films qui ne sortent pas, d'ailleurs. Enfin, de les proposer, ils l'achètent, hop, ils le proposent en direct ou tout VOD, mais que tu payes...
Je pense vraiment que c'est le
festival en direct une semaine après sa diffusion.
Moi, je pense vraiment que c'est l'avenir.
Ouais. C'est, Mais bon, il n'y a personne encore qui le,
non.
Qui le fait.
Et non.
Alors en France, c'est aussi une question de législation, attention.
Aussi, oui.
Par rapport à... Parce qu'on parlait de Netflix qui apparemment arrivera en 2014. Ils ont même été rencontrés par certaines personnes du gouvernement. Alors il ne faut pas oublier qu'en France, on aime bien changer les choses quand on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'on sort des solutions de téléchargement légal une fois que l'industrie du disque est à l'agonie. Et là, sur la vidéo, j'ai l'impression qu'ils font un petit peu les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'ils attendent vraiment d'avoir tué toutes les ressources légales possibles pour enfin se dire que des solutions comme Netflix, c'est possible. Parce que les gens, en fait, se focalisent sur Netflix. Mais en France, on a des acteurs qui seraient capables de faire tout aussi bien qu'eux si jamais ils avaient la possibilité juridique de le faire. C'est-à-dire qu'on a cité tout à l'heure Canal Play, Club Futur. Tous les acteurs de la VOD en France sont capables de proposer la même chose que Netflix si jamais ils ont le droit de le faire.
Oui, c'est vrai. Après, moi, je pense que ça va plutôt être des petits éditeurs sur le cinéma asiatique qui vont pouvoir faire ça, parce qu'il n'y a pas de raison pour que Canal Play mette en avant et aille tout d'un coup se dise on va acheter des petits films asiatiques qu'on va présenter au public alors qu'ils peuvent présenter The Hobbit et Spider-Man 2. Enfin, ils vont avoir aucune raison de faire ça. Donc je pense que c'est les éditeurs qui sont déjà en place sur le marché qui doivent de toute façon s'adapter à ce marché-là et proposer leur catalogue et leur découverte donc aux spectateurs, et qui va plus venir le chercher d'ailleurs parmi eux que chez Netflix ou
mais en attendant que la loi que la législation se fasse, ils pourraient quand même voir leur politique de prix, revoir un peu leur politique de prix et proposer les vidéos à un prix plus attractif, quoi, parce que là 5 € une vidéo que tu peux voir une fois pendant 24 heures ou 48 heures, c'est quand même super cher, quoi.
Ouais, parce que le prix dépend pas de la législation, mais non, après au niveau de la chronologie des médias,
le cinéma asiatique a toujours été très très cher, enfin les DVD,
non, mais là, même c'est à tout, l'époque, en fait, quoi. Là, c'est tout, vraiment
mais,
tout.
Ouais. Mais même à l'époque le cinéma asiatique en général était toujours le nombre de films asiatiques qui sortaient en DVD qui étaient à 30 € alors que les autres films étaient à 20 ou 25 maximum, même à l'époque c'est toujours été plus cher le cinéma asiatique en France.
Et après, il me semble que la chronologie des médias ne marche que pour les films qui ont une sortie salle. C'est-à-dire que s'il y a une acquisition d'une sortie en direct ou VOD, il n'y a pas de raison pour que Wildside sorte demain, Why Don't You Play in Hell, en direct ou tout VOD. Et ils n'attendent pas 3 ans pour le sortir, quoi. Ils le proposent dans un abonnement, ils ne l'ont pas encore parce qu'ils n'ont pas la plateforme. Mais bon, c'est autre chose. Mais au niveau de la chronologie des médias, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas une diminution entre un film qui sort en Asie
comme les séries
et 2 semaines
TV américaines,
plus tard,
comme les séries de télévision. Ils ont mis du temps aussi à mettre en place un système qui permettait de voir les épisodes de films de séries de TV américaines un jour après en France légalement. C'est-à-dire que là, c'est assez récent.
Mais encore une fois, ils l'ont fait parce que le téléchargement a explosé. Ils ont été au pied du mur et ils se sont dit bon,
ça existe et c'est très cher.
Ouais.
En plus.
Ouais. Ça commence à baisser. Il y a un peu de. Ouais. Enfin voilà, il y a une offre qui se crée. Non, ça commence pas à baisser. Il y a Jérémy qui me regarde.
Ah non.
Mais comment ça? Où ça? Où est-ce que
non, mais rappelle qu'à l'époque de. Je me rappelle qu'à l'époque de Lost, par exemple, où il y avait des. Où tu regardais un épisode sur TF1 vidéo, là, c'était. Il y avait un prix de malade, quoi, pour regarder un épisode de Lost.
Ouais, c'était 1,99.
C'était pas le jour d'après, quoi.
Non, même plus.
Non, c'était plus que ça.
Si, il y avait quand même déjà du.
Du plus H24.
Ouais, du plus H24.
Mais alors que maintenant tu prends un abonnement sur Orange avec OCS TV et c'est quand même assez performant leur partenariat avec HBO, quoi. Donc pourquoi pas après.
Bon, bah voilà, donc pour voir du cinéma asiatique, je pense que ce qu'on peut retenir de ce débat, c'est que
aller à Paris et aller dans les festivals
en 2014. Faut aller à Paris ou dans les festivals, ou en 2014 on n'ira plus au cinéma et on n'aura plus de DVD, on n'aura que de direct ou VOD, et avec des abonnements sur diverses plateformes. Mais au moins, si ça permet de voir des films qu'on peut voir nulle part ailleurs, c'est plutôt pas mal. Et de toute façon, il faut que ça se développe, parce qu'actuellement le marché n'est pas des plus affriolants, quoi.
Il y a quand même pas mal de festivals en province, festivals asiatiques en province. Par exemple, là, le festival japonais, ce qui est bien, c'est qu'il y a une session à Paris, et puis après, je ne sais plus dans quelle ville de
Ouais,
province, ça
ça
continue.
bouge un peu partout
Ça
à
bouge
Paris.
partout. Ouais.
C'est vrai qu'on peut un peu clore en parlant des festivals qui ont marqué 2013. Je vais, comme d'habitude, vous poser une question bon, qui est pas compliquée, à laquelle vous allez pouvoir répondre. Non, en tout cas, le fait. Enfin, ce qui semble, c'est qu'il y a de plus en plus de festivals qui se spécialisent de plus en plus sur un pays. On a vu cette année éclore un festival du cinéma indien, donc c'était il y a quelques mois, qui s'est rajouté au FAST, qui est le festival des films d'Asie du Sud transgressif.
Transgressif.
Donc c'est un peu l'Inde et tout ce qu'il y a autour de l'Inde. Il y a le festival du cinéma coréen, il y a le festival du cinéma japonais. Et en fait, il reste que Deauville et Vesoul comme festival qui regroupent l'ensemble des cinématographies asiatiques. Et finalement, il y a une spécialisation de plus en plus importante par pays et par cinématographie. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui se passe actuellement, ou est-ce que c'est
Oui.
bien ou pas?
Ah oui, c'est bien, forcément, puisque ça permet de découvrir de plus en plus les cinémas de la plupart des pays asiatiques, et on espère que d'autres films, enfin d'autres pays auront leur festival. Par exemple, je sais pas, le cinéma indonésien, c'est aussi très très intéressant, le
Le cinéma
cinéma.
kazakh, par exemple.
Voilà. Le cinéma, je sais pas, il y a un festival de cinéma iranien qui non, pas encore.
Alors, je pourrais pas dire avec certitude, mais ça
Si
serait
vous
pas
êtes
étonnant parce
fan
qu'il y
de cinéma
a.
iranien ici.
Ouais.
Comme si c'était péjoratif d'être fan de cinéma iranien.
Non.
Non, mais.
Non, mais on dirait qu'il y a à boire et à manger dans le cinéma iranien. Mais non, mais philippin, je sais pas s'il y a un festival philippin, non, toujours
Non,
pas.
pas encore.
Non, mais même dans les festivals un peu plus généraux, il y a aussi pas mal de bah, Vesoul, il y a pas mal de cinéma philippin qu'on fait.
Cette année, Vesoul
Ouais.
sera consacré au cinéma philippin.
Ouais, en
Enfin, il y aura
plus.
une. Enfin, là, on va en voir beaucoup.
Et même après, dans les gros festivals parisiens, par exemple les Tranches Festival, il y a toujours pas mal de films de festivals asiatiques, au PIF aussi. Il y a toujours enfin, le cinéma asiatique est vraiment très représenté
Et
dans
alors, ça,
tous les festivals.
c'est une autre question. Est-ce que finalement, outre cette spécialisation qui ferait qu'a priori on pourrait voir plein de films différents parce qu'il y aurait un festival qui présenterait une sélection des films japonais comme Kino Tayo qui sont sortis cette année, le FFCP qui présenterait les films coréens, mais finalement, est-ce qu'on ne retrouve pas toujours à peu près les mêmes films d'un festival à l'autre? C'est-à-dire que je pense à The Lunchbox. Qu'on a vu, qu'on a découvert à Cannes, et qui ensuite a fait le Festival du cinéma indien, a fait un festival au Forum des images, et finalement, c'est toujours les mêmes films qui représentent une cinématographie dans leur pays. Donc est-ce que ça ne tourne pas un peu en rond, malgré cette spécification qu'il peut y avoir parmi les différents festivals?
Bah ça, c'est pas vraiment propre à cette année 2013, quoi. En fait, il y a toujours eu les bêtes de concours qu'on affiche dans tous les festivals, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'on a tendance à voir un peu toujours les mêmes films en festival. Et que finalement, même si on a le festival du cinéma japonais, indien, etc., mais c'est toujours les mêmes têtes d'affiche, et qu'on a, malgré la spécification, on creuse pas encore assez totalement la
C'est vrai,
cinématographie.
quand tu parlais de
C'est
Hope,
superficiel.
par exemple, tout à l'heure, bon, je l'ai raté au FFCP, je me dis, il y a une chance pour que je le voie au Black Movie, il y a une chance pour que je le voie à Deauville.
Voilà.
Donc je le rattraperai quand même, quoi. Donc, je ne sais pas si sur la question des festivals, Alex, tu veux rajouter quelque chose?
Non, mais c'est ça. Mais le truc, c'est que pour moi, en fait, c'est une chance supplémentaire de toucher un public différent. C'est-à-dire que le public de Cannes n'est pas forcément le même que celui du Festival indien, qu'au Forum des images. Moi, je pense que. Même si, enfin, en prenant l'exemple de Lunchbox, même si on le retrouve dans plusieurs festivals, je pense que ça donne une visibilité supplémentaire. Bon, là, en plus, il sort en salle, mais ça donne une visibilité supplémentaire au film. Et enfin, moi, je suis partisan de plus on voit du cinéma asiatique, mieux c'est.
Oh, mais
Mais
on
plus,
voit,
si le
ouais,
film
mais
est
on voit,
bien,
ouais, mais
hein.
on voit toujours le film, on voit toujours ce film-là. Et c'est ça qui me dérange un peu, c'est que même si j'ai beaucoup aimé The Lunchbox, mais le truc c'est que c'est ce film-là qui est, bon, c'est une vitrine, quoi, mais c'est ce film-là qu'on va voir, et c'est pas un autre, quoi.
C'est mieux que ce soit un
Si
bon
ça
film
peut
quand même.
s'en revenir,
des gens, s'ils se disent, tiens,
oui, c'est un point
il y a ce
d'entrée, ouais.
film-là, j'en ai entendu parler, il est bien dans ce festival-là, et qu'après, ça lui permette de découvrir d'autres films qu'il n'y a pas dans d'autres festivals, moi, ça me dérange pas.
Ouais, mais ça, c'est vraiment parce que tu es optimiste et que tu espères que les gens sont curieux de nature et que... Mais
après, non, mais je suis assez d'accord.
Ah, vas-y, Yannick, vas-y, dis-nous.
D'une part, je suis assez d'accord. Et puis, d'autre part, il faut oublier aussi une chose toute bête, c'est qu'il y a beaucoup de spectateurs qui ne peuvent, peuvent pas faire le tour de festival, que ce soit de France ou même seulement de Paris. Et donc, s'il y avait tel ou tel film qui était montré seulement à tel festival, bah, ça diminue quand même vachement sa visibilité, puisque... Quand même pas oublier que bon, bah là, le Nubox sort en salle, mais il y a quand même énormément de films qui sortent en festival qui ne mettront jamais le bout de le nez, que ce soit en salle ou même en DVD. Et ça donne quand même plus de chance aux films. Et puis, un truc tout bête, c'est vrai qu'il y a, il y a les mêmes films qu'on peut retrouver dans divers festivals sur une période donnée. Mais souvent, si un éditeur se dit, tiens, je vais acheter tel film et puis je vais le sortir en salle ou je vais le sortir en DVD, c'est parce qu'il aura marché à 2, 3 ou 4 festivals. Il prendra pas le risque pas forcément le risque d'essayer d'acheter un film qui aura juste fait sa petite impression dans un festival.
Le cas de Lunchbox, voilà. Il a été montré à Cannes, il a été acheté après sa diffusion à la Semaine de la Critique.
Ouais, mais Cannes, c'est quand même un.
Ouais,
c'est ça aussi. Non, puis je suis d'accord avec toi, Yannick, mais il y a. Mais oui, pour, y a des, c'est très bien qu'il y ait, que tout le monde puisse voir le film, etc. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est vraiment ce côté loterie, un peu, quoi, où c'est ce. Voilà, c'est The Lunchbox qui a tiré le pompon, quoi, et qui finalement tire un peu la couverture et que ça laisse un peu les autres films un peu dans le...
Parce que même sur la... On a beaucoup parlé depuis Cannes de la nouvelle vague du cinéma indien. On a fait une semaine là-dessus. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était quoi, 4-5 films voilà. qui étaient montrés partout et qui représentaient cette nouvelle vague. Globalement, les films produits par Anurag Kashyap, qui avait fait Gangs of Wasseypur. Voilà, il y avait aussi Ship of Theseus, par exemple, qui a fait le tour des festivals. De
Là, on voit Monsoon Shoutout, qu'on avait vu à Cannes et qui maintenant fait le tour des festivals étrangers et qui a pas mal de succès aussi. Voilà. Et c'est toujours les mêmes. C'est cette sorte de loterie là, qui me dérange un peu. C'est, on sort le chouchou et puis on le balade un peu partout.
Oui, donc il y a eu Ugly qui a fait le tour. Il y a aussi eu On the Job, je crois.
C'est Philippin.
Pour le cinéma d'Éric Mathilde.
Mais c'est pareil, c'est exactement le même système. Quoi.
Ouais. Voilà. Pour le film de genre. Et parce que Wildside aussi a les droits, il risque de sortir.
Wildside, je trouve que Wildside a aussi pas mal. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'emprise aussi sur pas mal de films qui sont en festival. Enfin, par exemple. Et j'ai l'impression qu'ils n'en font pas grand-chose. Enfin, il y a des films, ils n'en font pas grand-chose, quoi.
Bah là, on revient sur la problématique de tout à l'heure.
Voilà, c'est ça, le problème, c'est qu'il y a...
Mais pour avancer, c'est vrai que finalement, ça crée une fausse perception, et je pense qu'on va aller sur la troisième partie, des cinémas nationaux, parce qu'on a l'impression qu'il y a une unité du cinéma indien. Exactement. À travers une nouvelle vague, qui en fait est une création purement occidentale autour de 4-5 films qui font le tour des festivals.
Et on en revient un peu à ce côté, toujours à l'exotisme un peu, quoi, voilà, où c'est, on se fait une vision d'un cinéma au travers de quelques films et de quelques climats, d'atmosphères, etc. Et c'est pas représentatif de la cinématographie, quoi, dans son ensemble. Quand on voit les films de Kashyap, où c'est vraiment des polars stylisés... Loin du bling bling bollywoodien, quoi, et on n'arrive pas à saisir un peu toute l'ampleur du cinéma, et on a tendance après à faire des généralités, et c'est là aussi un gros problème du cinéma asiatique, c'est le fait qu'on généralise un peu tous les types de cinéma, quoi.
Bon, on a besoin de catégoriser aussi, quoi, pour donc ça veut dire qu'on n'est quand même pas que des enfants gâtés qui font le tour de tous les festivals et on dit ah mince, on l'a déjà vu celui-là, c'est déplacé et tout, voilà pourquoi, pour revoir le même film. Mais c'est vrai qu'après ça impacte en fait la perception qu'on a des cinématographies nationales, bah, de manière peut-être un peu biaisée et peut-être un peu différente de ce que sont effectivement les cinématographies dans les pays dont on parle dont on parle ensuite. Mais on l'a, enfin là, c'est particulièrement présent avec l'Inde, j'ai l'impression. Mais on l'a vu avec avec la Corée aussi, où finalement, enfin l'image du cinéma coréen qu'on a en France est une construction principalement occidentale et qui ne correspond pas vraiment à la réalité du marché là-bas.
Ou le cinéma kazakh qu'on avait découvert à Vesoul en 2012 et où on s'était dit au début. Ouais putain, on va se taper des films kazakhs, ça va être des trucs super contemplatifs, assez lourds, etc. Et finalement, on s'est retrouvé avec des westerns, avec certains films de genre ou des trucs comme ça. Et voilà, après on a chacun une perception d'un cinéma et finalement, et les festivals nous enferment un peu des fois dans ce genre dans nos perceptions, quoi.
Oui, j'avais vu dans les bonus de New World, ça m'avait beaucoup fait rire, l'organisateur qui disait qu'il avait voulu faire un polar assez un peu plus dur parce qu'avait l'habitude du public coréen, et finalement, malgré le fait qu'il ait quand même essayé de ne pas aller trop loin, un grand nombre de public coréen avait été choqué par la violence du film, alors que pour moi, spectateur occidental de polar coréen, j'avais trouvé ça relativement soft, quoi, par rapport à ce qu'on connaît, nous, de polar coréen, quoi.
Non, mais en fait, par rapport à la réalité qu'on perçoit au travers des productions cinématographiques asiatiques, je pense que l'exemple des... alors là, pour le coup, ça va pas être du cinéma, ça va être de la série télé. L'exemple des dramas coréens est assez significatif de la perception qu'ont les jeunes, entre guillemets, enfin le public des dramas, de la vie en Corée. C'est-à-dire que dans les dramas coréens, en fait, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, plus ou moins. C'est un petit peu le monde de Walt Disney, où il y a toujours une belle histoire d'amour, etc., etc. Et c'est vrai que c'est une perception un petit peu faussée de la société coréenne telle qu'elle naît vraiment.
Mais est-ce que l'inverse n'est pas vrai dans la cinématographie telle qu'on l'a eue avec toute la vague de néopolar, où la société coréenne semblait super dark et extrêmement violente. Donc là aussi, il y a une construction qui va des deux.
Je pense que la vérité est entre les deux, quoi. Ouais,
comme dans tous les pays.
Voilà, et que c'est vrai que les films qu'on voit en France, les films coréens, quand on prend l'exemple de la Corée, les films qu'on voit en France sont assez, assez critiques vis-à-vis de la société. Et je me rappelle d'une année, on était au festival coréen et on voyait que des films assez. Assez glauque, quoi, où il y avait une jeunesse un peu mal et en perte de repères et qui étaient complètement oppressés par la société, etc. Et voilà, quand on voit les dramas où c'est le pays des bisounours, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, quoi. Mais nous, en tant qu'occidental, en tant que public français, quand on voit ces deux extrêmes, on a tendance à assimiler le pays. Après, les jeunes qui regardent les dramas, ils pensent que la Corée c'est comme ça, quoi.
Après, ce qui est intéressant, c'est que les dramas sont plutôt pour un marché intérieur en Corée, comme au Japon d'ailleurs. Ouais, donc c'est une image aussi rêvée du pays tel qu'il aimerait se voir. Et est-ce qu'il n'y a pas justement aussi dans beaucoup de cinéma asiatique, notamment sur le cinéma chinois, le cinéma japonais, le cinéma coréen, particulièrement le cinéma indien, une dichotomie en fait entre un marché qui est intérieur, avec des films qui sortent généralement jamais du pays, et un marché qui est beaucoup plus restreint, avec quelques cinéastes qui font des films pour les festivals et pour être vus à l'étranger.
Les films pourraient être différents pour être vus à l'étranger, parce que les étrangers n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes perceptions. Je tiens même la Shaw Brothers remontait ses films, changeait la musique pour les distribuer ailleurs que chez eux. Il y a toujours eu une volonté de montrer autre chose aux étrangers pour vendre leur film, finalement.
Ah mais oui, et puis c'est toujours le cas maintenant. On a bien vu avec Snowpiercer, par exemple, pour les États-Unis, où les frères Weinstein essayent de négocier. Je ne sais pas où c'en est d'ailleurs, mais ils ont négocié pour... Le film est toujours pas sorti.
Ça, c'est un problème aussi des Weinstein, c'est que comme ils en ont rien à foutre des films qu'ils distribuent, ils les achètent et ils en font n'importe quoi en pensant. J'avais discuté avec Bustillo pour Livid, qui était intéressé de savoir ce que les Ricains, donc les Weinstein, comptaient faire de son film. Hein.
Enfin, on voit que c'est une problématique qui est toujours d'actualité, quoi.
De toute façon. Et l'exemple de Snowpiercer est assez intéressant parce qu'on a vu. Effectivement, il y a plein de films coréens qui, notamment les comédies dont on parlait, tous ces films du milieu en fait, qui sortent jamais. Alors qu'il y a les cinéastes qui marchent très bien en Corée, parce qu'il me semble que Snowpiercer c'était 6 millions d'entrées cette année, donc sur le marché coréen, donc bon, c'est un succès énorme, mais qui aussi vise le marché international. On en parlait lors du podcast de Snowpiercer, justement, de ces réalisateurs coréens qui vont faire leurs films aux États-Unis ou avec des capitaux étrangers. Et donc là, qui vise aussi un autre marché, mais de manière beaucoup plus volontaire, en fait. Enfin, ils font pas que des films pour les Coréens, ils font des films pour le monde
Oui,
entier.
puis on voit que même à l'intérieur de l'Asie, il y a de plus en plus de films qui regroupent des productions japonaises, coréennes, chinoises. Parce qu'on a vu avec The Agent, par exemple, où il y a je ne sais pas combien de pays qui sont représentés dans le film, ou même
Black
Black
Dawn,
Dawn qu'on a vu
ou
cet
Black Dawn qui était
après-midi,
avec
au
une hôtel,
Kinotayo,
coproduction
coréenne
coréenne
et japonaise.
et japonaise.
Voilà, et on voit qu'il y a aussi à l'intérieur de l'Asie même une espèce de production qui se fait entre les pays.
Mais si Agent est une production exclusivement coréenne, hein, ils ont pris des gens ailleurs, mais
Oui,
c'est pas une
au niveau de la
production avec des
production, mais
capitaux partout là, par contre.
au niveau du casting, et au niveau
Ah
de...
oui, le casting, oui,
Voilà.
mais c'est pas fait. En fait, le réalisateur a visité Berlin et s'est dit, tiens, ce serait génial de faire mon film ici. Donc il a embauché des gens et tout, mais les capitaux sont absolument pas européens,
Oui,
quoi.
mais il y a quand même une ouverture vers l'international à faire quelque chose. Déjà d'avoir choisi Berlin comme ville,
Après,
comme décor principal.
c'est
Voilà.
l'influence occidentale
Oui,
et
t'as l'influence occidentale.
l'influence américaine qui devient de plus en plus forte. Et les auteurs ont envie, d'une part, quand on voit la nouvelle vague indienne, de plus en plus d'imiter Hollywood, et les autres auteurs, comme Park Chan-wook ou Kim Ji-woon, qui sont partis carrément aux États-Unis, tenter leur aventure. Voilà, il y a une volonté quand même, il y a une volonté d'ouverture. Et le chat Victor en fait des siennes. Et oui, voilà, il y
Il
a
est en train
une.
de faire ses griffes sur mes vinyles. Hein.
Ah,
Je peux pas me
l'horreur!
concentrer là.
Et donc voilà, je sais plus ce que je disais, mais c'est à peu près ça, quoi. Ouais.
Je suis assez d'accord, cela dit, je reviens à The Agent. Pour moi, le choix de Berlin est plus symbolique qu'une volonté de s'ouvrir à l'international. Le fait de mettre une guerre entre la Corée du Nord et du Sud en plein milieu
Oui.
d'une ville qui a été réunie depuis
Oui,
quelques
il y a
années,
aussi.
Mais
Oui, il y
voilà,
a
c'est
vraiment
comme.
symbolique, quoi.
Mais c'est symbolique, mais c'est aussi exotique, quoi. Voilà, c'est comme nous quand il y a un film occidental qui sort, mais qui prend. Voilà, c'est comme par exemple Zulu qui est sorti il n'y a pas longtemps avec Denzel Washington, avec Forest Whitaker et Orlando
Orlando
Bloom,
Bloom.
qui se situe en Afrique du Sud. Il prend le contexte sud-africain, mais finalement, il en fait que c'est un thriller des plus classiques.
C'est pas forcément.
Et je pense que voilà, le choix de Berlin, c'est exactement la même chose. C'est une sorte d'exotisme pour
Parce que
Coréen, quoi.
le film enfin, vise pas forcément le marché international,
Non,
j'ai
du tout.
l'impression,
Du
pour
tout.
The Berlin File. Et c'est vrai qu'il y a cette. Même on parlait de The Thieves tout à l'heure, cette impression qui vise d'abord le
Oui,
marché
aussi.
interne et après les pays aux alentours, c'est-à-dire Hong Kong, la Chine, la Corée, le Japon. Enfin, le public peut être visé dans un niveau d'abord local hein, avant que ce soit international. Et un autre élément marquant, à mon avis, de 2013, c'est que les énormes succès, à part les coproductions, justement, comme Snowpiercer, dans lequel il y a des capitaux internationaux, mais certains énormes succès, notamment chinois, ne vont peut-être, sans doute, jamais être montrés en France, ou peut-être jamais sortir en France. Il y a l'exemple de Young Detective D, de Tsuyar, qui est
Alors
pourtant un
que
nom qu'on
Detective D
connaît
est
en
sorti.
Occident. Detective D est sorti. Je le vois mal avoir un succès
Et qui va sortir en
similaire.
France, hein.
C'est comme
Ah, il va sortir en France,
il
pardon.
va
Bah,
sortir,
ouais, bien sûr.
donc on va me
bah, on peut prendre aussi
prendre
l'exemple de Outrage. Outrage qui est sorti, qui était à Cannes, carrément, alors que la suite, peut-être elle va sortir je sais pas si c'est sorti en 2014 aussi,
Je pense que ça va sortir en DVD, quitte à nous quand même,
Alors, je reprends exactement la même démonstration, mais pas avec Young Detective D, mais
non?
avec Outrage Young, qui est le plus gros succès de Kitano, et pourtant qui a un nom connu, et c'est un film qui a très bien marché au Japon, et qui pourtant ne va pas, pour l'instant, ne trouve pas de distributeur en France. Hein.
Alors que le premier était à Cannes, quoi. Enfin, c'est un
Le
peu
premier était à Cannes, mais s'est fait descendre à Cannes.
Oui,
A
comme
pas très bien
tous les
marché. On...
films, d'action un peu asiatiques qui sont. Bah, on a eu Mickey cette année. C'est pas, c'est vraiment pas. Enfin, c'est vraiment les styles de films qui sont pas du tout faits pour l'esprit de Cannes, quoi. Donc, c'est pas, ça veut pas dire forcément que ce sont des mauvais films. C'est surtout que c'est les gens là-bas qui vont voir les films et qui vont voir, je sais pas combien de films par jour, ne sont pas du tout conditionnés pour voir ces films-là à ce moment-là, quoi. Donc après. Et ça arrive d'ailleurs des journalistes qui revoient le film plus tard et qui disent ah, finalement c'est pas si mal. On a
Bah
peut-être
écoute, pour Shield of Straw, aka Warren Otate, ça n'a pas été le cas
Non,
pour moi en tout
là
cas.
oui, c'est l'exception qui confirme la règle, mais
Est-ce qu'il y a des d'autres choses que vous voulez rajouter sur cette thématique, sur les, enfin, voilà, les sorts ou les thématiques que vous avez pu voir dans les différentes cinématographies en Asie en 2013?
Alors moi, en fait, c'est plus général sur le cinéma chinois, le cinéma chinois intérieur qui prend de plus en plus d'ampleur, en fait, parce que ils arrivent quand même, le box-office chinois, en fait, ils ont dépassé, là, il y a pas si longtemps, il y a quelques jours, les 3,29 milliards de dollars de recettes au box-office. Donc c'est plus 16% par rapport à l'année dernière. Donc c'est assez énorme. Et on a le plus gros succès du pays, c'est Journey to the West, qui a fait quand même 204 millions de dollars au box-office local.
Énorme.
Donc on arrive quand même à des chiffres assez gigantesques, ce qui permet justement au cinéma chinois de réaliser des gros films, vraiment, vraiment de mettre du budget sur les effets spéciaux, sur ce genre de choses. Dont un film dont je parlerai tout à l'heure. Et les budgets maintenant des films asiatiques et chinois en particulier sont de plus en plus importants. Et justement, ça, ils se rapprochent vraiment des productions US.
Mais alors pourquoi il y a quand même cette difficulté à exporter ces films à gros budget?
Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur les remakes. C'est parce que ce soit pour un Américain ou pour un Français, on met un acteur américain ou un acteur asiatique. Le public lambda, le grand public, sera toujours plus ouvert vers un film avec des acteurs américains
Ouais,
qu'avec des
des
acteurs
têtes
asiatiques.
connues.
C'est bien pour ça que dans Snowpiercer, on a des grosses têtes d'affiche US. C'est pas qu'une question de capitaux, c'est aussi parce que il faut ramener du monde en salle en dehors du pays d'origine du film. Et pour ça, les têtes d'affiche étrangères sont là.
Et d'ailleurs, ça c'est une autre tendance qu'on a pu voir en 2013, c'est que l'Asie était très à la mode à Hollywood. Bah on l'a vu sur les gros films de l'été qui étaient Pacific Rim, Wolverine, le combat de l'immortel, hein, qui se passait au Japon, l'autre se passait à Hong Kong avec des éléments de culture japonais. Il y a des remakes qui vont arriver, enfin, là ça va aller de Godzilla à Hellboy. Donc l'Asie est quand même très très présente dans le cinéma très très grand public hollywoodien.
Elle est présente, mais
C'est
comme le disait Alex, c'est vraiment, c'est voilà, il est présent, mais on l'adapte à une vision occidentale et on gomme le maximum du côté asiatique, quoi. Voilà, sinon c'est
Bah,
irregardable, quoi.
il y a ce côté exotique qui reste quand même. Hein.
Old Boy, tu l'as vu, toi, le côté exotique?
Alors, pas dans les remakes, mais justement plutôt dans Godzilla, enfin Godzilla qui arrive en
La
2014, ou
moitié des gens qui
dans
vont voir
Pacific
Godzilla
Rim.
pensent que c'est une suite à Roland Emmerich et non pas.
Exactement, ouais, je suis d'accord avec toi, Yannick. Mais
Un
par
reboot
contre,
en
il a
même temps,
l'air, mais il a
mais
l'air, mais
il a l'air dix
il a
fois
l'air
mieux
très
quand
bien,
même,
ouais, il
hein,
a
il
l'air
a l'air
très
dix
bien.
fois
Ah
mieux
oui, non,
que
je parle
Film
pas de
Noir.
l'éventuelle qualité du film, je l'attends aussi.
Ouais.
Je veux dire, pour le public lambda, pour lui, Godzilla, c'est Roland Emmerich, c'est
Oui,
pas
mais
du
alors que
tout,
c'est pas du tout.
une grosse bestiole qui vient du Japon, quoi.
Ouais, il y a un peu de
Bon,
ça.
avec un peu de chance quand même,
Ouais,
vu
je
qu'il
sais
date de
pas.
98, la plupart des gens l'auront oublié, je l'espère.
On peut pas
Pour
oublier, on peut pas
oublier.
oublier le Jean Reno, on peut pas oublier tout ça, quoi.
Il y a une ressortie en Blu-ray
Ah
là
si, si.
d'ailleurs. Tu dis que si
On peut
là.
essayer en tout cas d'oublier.
Un Roland Emmerich, ça s'oublie pas, quoi. Jean Reno,
Hélas.
le chewing-gum. Voilà.
Et dans le même état d'esprit, on a vu également, alors ça c'est peut-être au niveau culturel plus intéressant, non pas des remakes, mais des coproductions qui se passaient vraiment dans les pays dans lesquels ça a été tourné. Je pense à Only God Forgives de Nicolas Winding Refn, à Metromania aussi, donc qui étaient des films qui étaient faits par des Britanniques ou des Danois ou des Européens, on va dire, qui venaient
The Act of Killing aussi, d'ailleurs.
Ou The Act of Killing, ouais, qui est aussi réalisé par quelqu'un qui ne vient pas du pays et qui va s'immerger dans la culture là-bas pour faire un film dans ce pays-là avec des capitaux qui viennent d'un peu partout d'ailleurs.
Et surtout que sur Only God Forgives de Refn, ce qui est, je trouve qu'il va encore plus loin que le simple exotisme, c'est que dans le film, c'est vraiment l'occidental qui est montré ce qui a corrompu la Thaïlande, en fait, et que le véritable héros purificateur du film, c'est le Thaïlandais avec son sabre qui tranche tout le monde, quoi.
Qui est le vrai personnage du film, d'ailleurs. Enfin, c'est le vrai héros du film.
Je trouve que cette approche-là est vraiment intéressante et assez inédite, finalement, dans le cinéma occidental.
Ouais, donc moi, je voudrais rajouter un titre de film dans ce que vous citez là, parce que même si le film en question est plus raté que réussi, c'est quand même fait par un Français, donc c'est Bangkok Renaissance, de Jean-Marc Minéo, qui part vraiment sur ce principe-là, puisque c'est donc un réalisateur français qui a voulu faire un film... à Bangkok, avec un film d'action, etc. Bon, c'est pas très réussi, l'acteur principal est mauvais comme pas permis, mais voilà, il y a quelque chose quand même.
Parce que Jean-Marc Mignot, quand même, va maintenant, après avoir attaqué la Thaïlande, il va quand même réaliser le premier film d'action algérien. Et ça, quand même, on l'attend avec Smaïn et Lori en plus.
Donc, Alors, on l'attend avec une impatience. Mais Bangkok Renaissance, moi j'ai passé un moment sympa devant le film parce que les séquences d'action sont pas trop mal. On sent qu'il y a quelque chose. Le problème, c'est que l'acteur principal est inexpressif comme pas permis. C'est John Woo, il sait se battre, mais il faut surtout pas lui demander de faire de l'acting. Et on sent aussi que c'est le premier film de Jean-Marc Minéo, donc il y a beaucoup de maladresse. Mais j'ai par contre été vraiment agréablement surpris par la fraîcheur du film. Et surtout, il n'abordait pas du tout le côté Bangkok, etc. Il ne l'aborde pas du tout de manière hypocrite ou quoi. On sentait qu'il aimait l'endroit, qu'il aimait l'ambiance, qu'il avait envie de faire quelque chose de... là-dedans, quoi. Et rien que pour ça, je trouve que ce film doit être cité et défendu.
Alors, bravo. Moi, par contre, j'ai rencontré le réalisateur Jean-Marc Minéo, qui est très sympa, et sa démarche sur Bangkok Renaissance est vraiment sincère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un passé important dans les combats d'arts martiaux, et vraiment... c'est vraiment un amoureux du cinéma asiatique. C'est vraiment, il fait vraiment ça. Le film, il l'a vraiment fait parce qu'il aime ça. C'est vraiment une passion pour lui. Enfin, c'est pas quelque chose. C'est pas une histoire d'argent. C'est pas.
Ah oui, mais ça se sentait vraiment. C'est justement ce que j'essayais d'exprimer.
C'est vraiment sincère, en fait, vraiment. Alors c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu le film, malheureusement, c'était dans une version. Dans la version qui est sortie en France, c'est-à-dire en doublé en français, donc c'était un petit peu dur pour mes oreilles. Et après, ensuite, je l'ai revu en version originale avec les sous-titres, maintenant qu'il est disponible en DVD, et c'est beaucoup mieux passé.
Il y a une vraie franchise, une vraie honnêteté dans la démarche. C'est pas du tout comme certains réalisateurs qui abordent, justement, on parlait de Roland Emmerich avec Godzilla, qui a toujours crié sur tous les toits, qui détestait Godzilla. Là, au contraire, on sent l'amour du cinéma d'action, l'amour de Bangkok, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je trouve intéressant à défendre.
Bon, on retiendra que tu as dit du bien d'un film quand même ce soir, qui est Bangkok Renaissance, donc Yannick. C'est un... C'est donc à noter. Je sais pas s'il y a des... Alors peut-être des... Alex, tu me parlais d'un film, notamment, enfin ouais, peut-être qu'on va pouvoir faire un tour de table sur des films que vous avez vus en 2013 et qui ne sortiront jamais en France, ce qui est regrettable ou pas, parfois.
Tout à fait. Alors moi, en fait, il y a un film qui sortira jamais en France, jamais en festival, jamais rien du tout. C'est une comédie thaïlandaise. Ça s'appelle Peemak, Peemak. Et c'est vraiment assez drôle, en fait. C'est une histoire de... Alors, je suis le spécialiste pour tuer n'importe quel film une fois que je raconte un synopsis, donc ça va être la même chose pour celui-là. C'est un
Donc,
mélange de
essayez de
comédie,
le voir et de le télécharger donc
de
avant et puis
fantômes,
revenez
et
ensuite écouter.
de... Enfin, en fait, c'est une comédie romantique avec des histoires de fantômes, ce genre de choses. Il y a beaucoup d'humour thaïlandais. C'est très bien, c'est assez loufoque. Je vous le conseille, voilà.
Je sais pas si vous avez d'autres films en tout cas ouais, que vous conseillez ou vous aimeriez voir en France, enfin à part notamment beaucoup de films qu'on a abordés finalement ce soir. Enfin, il y a le Kitano qui mériterait effectivement une sortie
Moi, c'est le
au stage Vienne.
dernier, Brillante Mendoza,
Oui,
Taiwan,
Taïwan, ouais.
qu'on avait vu à Deauville et qui m'avait beaucoup marqué par sa simplicité.
Non, puis c'est sa vision de la religion musulmane assez différente de ce qu'on
Ouais,
a l'habitude de
assez
voir.
inédite, ouais, assez belle.
Exactement.
Et il y a quelque chose qui se dégage de ce film. Mendoza, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui arrivent comme lui à cerner un peu le quotidien des gens comme ça, d'être aussi près des gens, mais sans vraiment les juger, juste il est là et il se balade un peu dans ses maisons, dans ses décors un peu,
Coloré.
surpilotis un peu les maisons comme ça. C'est assez impressionnant. Il y a des séquences comme une séquence de mariage au
De
coucher du
danse, avec
soleil
des danses, ouais, c'est assez
assez
fabuleux.
sublime. Et vraiment, je pense qu'il peut sortir. C'est Mendoza quand même. J'espère beaucoup qu'il va sortir en tout cas. Et
Il serait temps.
ouais, c'est vraiment un très 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 beau film.
En parlant de Deauville Asia, il y a aussi celui qui a eu le prix de la compétition de Deauville Asia 2013, le Grand Prix, c'est Heidi. D'ailleurs, on parlait du cinéma indien, d'ailleurs, qui essaie de sortir de cette vision un peu bollywoodienne qu'a le grand public du cinéma indien.
Ah, je suis moins d'accord. Enfin, pour le coup, les Bollywood ne sortent pas en
Non,
France.
mais je veux
Enfin,
dire,
c'est une
c'est pas qu'ils sortent en
cinématographie
France,
qu'on connaît très très
c'est
mal,
que
hein,
le grand public français, par exemple, on lui parle de cinéma indien, il pense tout de suite à Bollywood.
Mais sans
C'est la
connaître.
première chose. Sans
Enfin,
connaître, non, mais sans
c'est.
connaître, c'est justement, c'est parce qu'ils connaissent pas. Ils connaissent pas Bollywood et ils connaissent pas le reste du cinéma indien. Non, mais par exemple, Heidi, c'est vraiment une espèce de vision très très réaliste aussi, hein. Un peu à la Brillante Mendoza, justement, de l'Inde de Bombay. Donc, cette espèce de ville tentaculaire, une métropole tentaculaire en Inde. Le pitch est très simple, c'est un ouvrier qui vient chez une femme pour réparer je sais plus quoi, et d'un seul coup, il s'évanouit, il a un malaise. Et donc, elle ne sait pas quoi faire. Et donc, à partir de ce pitch-là, il va faire un film sur cette ville tentaculaire et sur cette question d'identité de la personne qu'on ne connaît pas. Et comment faire pour aider une personne qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas d'informations, et qui d'un seul coup a un problème. Et donc, il y a une espèce de film qui se développe comme ça autour des liens qui doivent se créer avec des gens qui ne se connaissent pas et d'entraide comme ça. Donc c'est passionnant et c'est vraiment un bon film qui mériterait aussi d'une sortie en salle.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner en fait sur quelques titres qu'on attend en 2014. Alex, quels sont les films que tu attends au cinéma, en DVD, en festival ou autre?
Alors ouais, pour moi il y a trois films. Alors le premier c'est une sortie DVD, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est Confession of Murder, qui sort en février 2014 chez France Télévisions. Alors c'est quand même, j'ai trouvé que c'était un très bon film, même si la fin est un petit peu tirée par les cheveux
On spoil pas tout de suite,
et
hein,
faire
comme...
tourner un peu le truc. J'ai trouvé que c'était un très bon film. Donc ça c'est la première chose.
Oui,
Le deuxième.
je voulais revenir sur Confession of Murder pour dire ouais que c'était un super. Bah, je l'ai vu à l'Étrange Festival, je suppose que c'est là où tu l'as vu aussi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est vraiment le cinéma coréen absurde et dans toute sa splendeur, mais dans le bon côté des choses, quoi. Et je trouve qu'il y a quand même des scènes assez énormes dans ce film. Par exemple, quand tu dis que la fin est un peu exagérée, tu parles du débat final ou avec les trois, pas sans spoiler trop, mais.
Vas-y, spoiler tout le film, hein, c'est bon.
Je pense que toute la scène finale, alors je veux pas du tout spoiler, mais je pense que toute la scène finale, en fait, vraiment la fin de la fin, on aurait pu s'en passer et c'était très bien.
D'accord.
D'autres attentes, Alex?
Ouais, un peu comme beaucoup, une sortie au cinéma. C'est Le vent se lève de Miyazaki,
Qui arrive bientôt.
puisqu'apparemment là c'est son dernier, dernier, dernier. Pour le coup, a priori, il recommencera pas.
Pas sûr.
Sinon, après, c'est une sortie pour le coup en Chine qui va peut-être sortir en France un jour dans différents festivals. C'est Monkey King. Avec Donnie Yen, qui a un budget absolument faramineux. Je crois de mémoire, c'est 60 millions de dollars. Et c'est vrai que d'après les premières vidéos, ça fait un petit peu peur. Mais le film a été repoussé maintes et maintes fois pour des histoires diverses et variées. Donc j'espère que à coup de post-production, ils vont réussir à rendre ça sympathique.
Bah ouais, c'est aussi des films qu'on attend. Yannick, as-tu des attentes pour 2014 ou, puisque je t'ai oublié tout à l'heure, des films inédits que tu souhaiterais conseiller à nos lecteurs ou
Ben,
auditeurs?
en fait, il y a deux films que j'ai vus en festival et qui font partie de mon top 10. Bon, l'un, je ne sais pas s'il a une sortie française de prévu, mais je l'espère, puisque c'est Rurouni Kenshin de Otomo Keishi.
Oui,
Donc,
il sort au premier semestre 2014, il me semble, en vidéo.
voilà,
Tout à
donc
fait. Ouais. Très bon
grosse
film.
attente 2014 pour moi, parce qu'effectivement, c'est un très bon film, esthétique absolument magnifique, manga life passionnant et bourré d'action, mais critique du Japon, vraiment un très 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 bon film.
Et la suite sort cet été.
Et la suite sort cet été, c'est magnifique, avec un peu de chance, je pourrais le croiser en festival aussi. Donc mon autre film, alors là j'ai absolument aucun espoir qu'il puisse sortir autre part que dans un festival, puisque c'est Slot Rocket de Yamaguchi Udai, donc avec Sakaguchi Tak. C'est un film qui reprend les sketchs qu'avaient fait les deux hommes avant leur carrière cinématographique, et on se retrouve avec une déstructuration du personnage de gros dur de Sakaguchi Tak, avec un humour absolument nonsensique, des gags complètement farfelus. C'est vraiment un film assez inoubliable dans son spectacle, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer.
Bah très bien, Nicolas, des attentes pour 2014?
Déjà des conseils, je rejoins Alex sur Le Vent se lève, évidemment, parce que il dit que c'est son dernier film. Moi, je l'ai vu, j'ai pu le voir. Je pense que c'est un peu le dernier film parfait, en fait. Une super conclusion à une magnifique carrière. Donc même si c'est pas vraiment son dernier film, même si enfin s'il en reste là, ce sera déjà très enfin, assez magnifique comme conclusion. Et sinon, il y a le Hong Sang-soo à Orson Hee, qui est peut-être le premier film que je vois d'Hong Sang-soo, sachant que j'ai vu que ses derniers films, enfin ses 5 ou 6 derniers films, qui me convainc totalement, quoi. Sinon, dans les attentes, il y a The Raid 2, parce que je me rappelle de la projection à Deauville l'année dernière, qui était assez fabuleuse, avec une ambiance assez exceptionnelle. Sinon, je ne sais pas s'il va sortir en 2014, parce qu'on n'a pas trop de nouvelles, mais le prochain film de John Woo, qui est...
L'Arlésienne.
Ouais.
Ouais, on a de l'espoir.
Ouais, enfin, je ne sais pas, parce que ça peut aller vite, hein, on n'a pas d'infos pendant un an, et puis d'un seul coup, en 3 mois, il balance la sauce. Donc,
Il a quand même eu des gros ennuis de santé.
oui, voilà, je sais pas, il y avait quand même des photos qui étaient sorties il y a 3-4 mois. Je sais pas, enfin, voilà, c'est un espoir.
Je...
J'espère, j'aimerais bien que ce film sorte un jour. Parce qu'il y a Zhang Ziyi en plus dans le film, je crois, c'est ça. Donc voilà. Après The Grandmaster, c'est le grand retour de Zhang Ziyi.
Jérémy, t'as des attentes pour 2014 hein?
Bah moi je vais pas faire l'original. Ouais, le Miyazaki qu'on va voir très vite, je l'attends avec impatience. Le Takahata aussi, on n'en parle pas, mais ça va, vu les trailers, ça a l'air totalement magnifique. Et d'ailleurs, on aura la critique bientôt par notre envoyé spécial Nicolas Debarle qui est au Japon, donc qui nous ramène la critique toute chaude. Et non, ouais, The Raid 2 qui va être un bon actionneur. Ouais, j'ai envie d'avoir mon Hong Sang-soo de l'année, mon Sonotion de l'année,
oui, donc
voilà,
aussi,
tous les auteurs comme ça que j'aime retrouver tous les ans avec gros plaisir.
Les deux Takeshi Miike de l'année.
Les trois Takeshi Miike de l'année.
Bah moi je vais clôturer avec des films bien joyeux comme sélection. Il y a déjà Till Madness Do Us Apart, un documentaire de 4 heures de Wang Bing qui se passe uniquement dans un hôpital psychiatrique en Chine. Donc voilà, qui s'annonce extrêmement...
tu nous fais rêver, là.
extrêmement joyeux. J'ai repéré aussi deux films kazakhs. Il y a en fait un film qui date de 2012, mais qui n'est pas encore sorti, qui est Student d'Omir Baef, qui est en fait une reprise de Crime et Châtiment par Omir Baef, et qui a priori est déjà terminé vu qu'il date de 2012. Et ça serait bien de le voir effectivement en festival, voire une sortie française. C'est un des rares auteurs du cinéma kazakh qui normalement sort en salle. Donc voilà, c'est un petit espoir pour 2014. Et un film qui s'appelle Harmony Lessons d'Emir Baygazin, dont vous pouvez lire une mini critique dans le papier de Nicolas Debarle, puisqu'il a eu le prix du jury au festival de Tokyo Filmex 2013, et qui parle de deux jeunes ados qui sont victimes de rackets au Kazakhstan, et qui a l'air d'être un film super intéressant et assez dur sur la condition donc de la jeunesse kazakh. Un autre conseil, hein, puisque là, celui-là, je l'ai vu et qui est peut-être un peu l'équivalent coréen du Harmony Lessons, c'est Bleak Night de Yoon Sung-young, qu'on a vu il y a 2 ans au FFCP et qui sort en salle en mars, donc qui est distribué par Dissidence Film et qui est un de nos coups de cœur du festival du film coréen il y a 2 ans et qui est vraiment un premier film d'un réalisateur à suivre de près. Et pour clôturer avec le cinéma coréen, Hong Gang-ju de Lee Sung-jin, qui a eu un prix à Marrakech et qui a été récompensé par Scorsese. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle. Enfin, il me semble que ça parle d'une chorale. Enfin, au début, je pensais que c'était le Glee coréen. Mais vu que c'est récompensé par Scorsese, on peut se dire qu'il s'agit d'autre chose. Donc voilà, ça, c'est certainement un film qu'on va retrouver également à Deauville. Donc qui peut être aussi intéressant.
D'ailleurs, on a déjà des rumeurs sur les films qui seront à Deauville ou pas encore?
Bah, il faut regarder un peu A priori, il va y avoir un focus sur la Corée cette année. Puis après, les rumeurs, on les lance ici. Donc on parie sur ce film qui a eu le prix à Marrakech. On parie sur The Raid 2. Je pense que lançons les rumeurs, puis on verra.
The Raid 2, je crois qu'il sort début mars là-bas. Donc je pense qu'il y a un moyen qu'il soit à Deauville.
Ouais, ça peut correspondre. Mmh. Eh bien voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour nos auditeurs.
Bonne fête de fin d'année, puis on se retrouve...
Allez voir tel père tel fils qui vient de sortir il y a quelques jours.
Et, allez-y le jour de Noël, vous en foutez du repas chez Bonne Maman, allez voir tel père tel fils.
Et puis allez aussi voir Albator parce que quelle que soit la qualité du film, des animes au cinéma en France, des animes japonais au cinéma en France, il n'y en a pas tant que ça. Donc il faut soutenir le film.
Je pense que malgré la qualité un peu discutable du film, je pense qu'il va rencontrer son public.
Déjà tous les fans.
Voilà, la nostalgie va gagner, va l'emporter, je pense. Mmh. J'espère en tout cas, parce que c'est vrai qu'il faut soutenir ce genre de projet, même si le film est un peu bancal.
Beaucoup.
Yannick, un dernier mot pour nos lecteurs, je ne t'oublie pas.
Moi j'ai plutôt envie de souhaiter une joyeuse Pâques à tout le monde.
Très bien. Et bien sur ce, joyeuse fête.
Et puis en 2014,
rendez-vous en 2014, ouais. Et on parlera de Kimotayo. Et après on parlera d'Old Boy. Ouais. Ça, tout va s'enchaîner. En 2014, on passe à la vitesse supérieure niveau peuple. Soyez prêts. See you, Space Cowboys.
Salut.
Ciao. Salut.